Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunet, lead de France Bleu RCFM à Ajaccio, en Corse. Et en direct de Madrid, Iman Huenzar de Radio Exterior d'Espagne. Bonjour Iman.
Bonjour Thomas, bonjour la Méditerranée, bonjour les Cantariens, partout où vous vous trouvez.
Alors Iman, tu nous présentes le sommaire de ce nouveau numéro de Cantara.
Alors nous commençons par le Qatar, le petit émirat du Qatar, de plus en plus isolé. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, la Libye, les Maldives, le Yémen et j'ajouterai même la Mauritanie ont décidé de rompre leurs liens diplomatiques avec ce pays pour soutien supposé au terrorisme. Nous entendrons ici l'analyse de notre politologue Aïssam Abdel Fattah. Le Maroc accroît sa présence dans l'Union africaine. Un accord de partenariat vient d'être signé entre la Banque africaine de développement et le Maroc. Interview dans ce numéro de la secrétaire générale adjointe de l'ABAD, celui que le poète canarien Juan Cruz appelait le dissident de lui-même. Juan Goytisolo est mort. Avec sa mort le 4 juin à Marrakech, c'est un rebelle qui s'en va, un rebelle et un visionnaire convaincu de l'inexorable métissage des cultures et des civilisations. Et en Corse, une rencontre avec Catherine Timotei, une peintre corse qui vit en Afrique du Sud à Cape Town. Pour la première fois, elle expose en Europe et bien sûr, elle a choisi son île natale pour cette première. Rencontre avec Yusra Zekri, une chanteuse lyrique tunisienne que nous présente Maïa Dassili.
Cantara, on le rappelle, le fruit d'une large coopération avec Alger Chaîne 3, Lida Boedma, France Bleu, RCFM, Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, Chaîne Interaba, Nadira Belkhoutout et Mohamed Chafoui, Radio Tunis, Chaîne Internationale, Maïa Dassili, Radio Le Caire, Dina Abdelmeguid et vous l'entendez, Radio Estelor d'Espagne, Iman Huenzar. Et nous commençons, Iman, avec une chanson égyptienne.
Oui, une chanson de Mohamed Mounir, Ya Hamem, aux pigeons.
Nous étions en Égypte avec cette chanson que nous a choisie Dina et l'on reste parce que l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, Yémen, mais également d'autres pays comme la Libye, les Maldives, la Mauritanie, ont rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar. Ils ont décidé de prendre une telle mesure pour soutien supposé du Qatar au terrorisme. Le gouvernement du Caire a décidé de mettre fin à ses relations diplomatiques avec le Qatar qui insiste à adopter un comportement hostile vis-à-vis de l'Égypte. Elle a annoncé la fermeture fermeture de ses frontières aériennes et maritimes devant tous les moyens de transport qataris. Les diplomates qatariens ont 48 heures pour faire leurs valises. Ils sont sommés de quitter l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Yémen, etc., etc. Et bien sûr, le Royaume saoudien. Même chose pour les ressortissants qatariens résidant aux touristes dans les pays de la région. Ils disposent de 2 semaines pour rentrer chez eux. Alors, cette décision est-elle soudaine ou y a-t-il d'autres raisons plus profondes? Écoutons l'analyse de notre politologue maison, Essam Abdel Fattah, au micro de Dina Abdelmeguit.
En fait, il y a des raisons profondes. Ce qui est déclaré, c'est que Qatar soutient le terrorisme, cherche à déstabiliser la région. Or, certainement, il y a des raisons profondes. Quand on envisage d'analyser ces relations, on va s'apercevoir que la première raison, c'est que Qatar, oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il soutient le terrorisme, mais comment ? Premièrement, Qatar a des relations avec les frères musulmans à titre d'exemple, ou aussi un certain nombre de milices islamistes. Il y a beaucoup de soutien provenant de Qatar vers les milices terroristes en Libye. Sinon, comment se fait-il que ces milices puissent acheter des armes ? Qatar soutient toujours, en fait, les groupes ou les factions islamistes parce que Qatar ne tarde pas à leur envoyer les soutiens nécessaires dont ils ont besoin. Puis, deuxièmement, Qatar a une certaine politique à part, qu'on appelle toujours la politique d'écart. Écart par rapport, par exemple, à la politique saoudienne. On a vu Qatar a signé un accord avec la Russie en ce qui concerne la crise syrienne, alors qu'on voit que l'Arabie saoudite est beaucoup plus proche des États-Unis. Et puis après, Qatar a de bonnes relations avec l'Iran. On sait très bien que pour le gisement, les deux pays possèdent un gisement de gaz naturel, donc un gisement qui se trouve à cheval dans les eaux territoriales des deux pays, et de bonnes relations, ce qui va à l'encontre, bien entendu, de la politique établie par l'Arabie saoudite et les Émirats. Et puis après la visite de Trump en Arabie saoudite, cette visite aussi a montré un nouvel axe du mal, composé de l'Iran et aussi de la Syrie, les chiites, en termes clairs. On a vu la presse régionale, par exemple, a publié des propos qu'aurait tenu l'émir du Qatar, faisant l'éloge du Hamas et présentant l'Iran comme un facteur de stabilité, un bon ami au Moyen-Orient. Et le Qatar, en fait, dément que l'émir ait tenu ses propos, mais il reflète assez largement la position de l'émirat, aux antipodes, bien entendu, de celle de ses voisins et alliés du Conseil de coopération du Golfe. Qatar se trouve donc accusé d'avoir de bonnes relations avec l'Iran et que Qatar ne se conforme pas à la politique établie dans la diplomatie saoudienne. Et il y a autre chose, on a vu le Qatar soutient la confrérie des frères musulmans. Qatar actuellement, c'est le pays qui a accueilli les frères musulmans et même la chaîne Al Jazeera s'est érigée en tribune médiatique pour défendre les intérêts de la confrérie des frères musulmans. Et puis après, Qatar n'a épargné aucune occasion pour attaquer le gouvernement égyptien. On sait très bien que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ils ont nourri une haine viscérale à l'encontre de la confrérie des frères musulmans. L'Arabie saoudite soutient plutôt le salafisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait un principe idéologique chez les frères musulmans qui n'existe pas chez les salafistes. C'est que la confrérie des frères musulmans soutient le principe de la nécessité de participer au pouvoir. Certainement, c'est un principe complètement refusé, donc une haine à l'encontre de la confrérie, partagée bien entendu par les Émirats arabes unis et aussi l'Égypte. Voilà, donc je pense que ce sont les raisons profondes de cette attitude hostile en fait à Qatar, et le rôle joué par ce minuscule émirat.
L'Égypte et des tas de pays donc ferment la porte au Qatar. Ce petit pays des Émirats eh bien, fait couler beaucoup d'encre hein, par rapport à ses relations avec le terrorisme. C'est un flirt qui est préjudiciable pour l'équilibre même de la planète. Alors, c'est vrai que c'est dangereux tout ça, ma chère Imane. Et on a l'impression que ça bouillonne au Moyen-Orient et c'est très inquiétant.
Oui, ça bouillonne au Moyen-Orient et surtout l'Arabie Saoudite a donné du point sur la table et veut ramener ce petit émirat turbulent dans le droit chemin. Donc le Qatar est de fait mis en quarantaine. On ne sait pas combien de temps un pays qui importe pratiquement tout ce qu'il consomme pourrait résister avec sa frontière terrestre fermée, son espace aérien pratiquement aussi fermé. Donc on se demande pourquoi. Et là, Hissam Abdel Fattah nous donne un début d'explication. Il pointe du doigt cette politique d'écart par rapport à Riyad qu'a toujours eu le Qatar. Alors le Qatar, je me souviens qu'une fois, dans une interview avec le professeur de Sciences Po Paris, M. Naoufel Brahim El-Mili, je lui disais, mais j'ai l'impression que c'est la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. Et ce monsieur très sérieux ne m'a pas reprise, il m'a pas dit non, vous avez tort. C'est effectivement la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. Alors que les autres pays de la péninsule arabique, à l'exception de Oman qui a une politique à part, tous sont en fait des vassaux en quelque sorte de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a l'habitude qu'on lui obéisse. Or, le Qatar a créé une télévision extrêmement offensive qui est Al Jazeera. Il finance des mouvements qui ne sont pas du goût de Riyad, ni d'ailleurs du Caire et d'autres régions, et qui, à chaque fois qu'il peut égratigner son grand voisin, le fait surtout en se rapprochant de l'Iran. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait trop rien, mais on sait ce qu'a dit Trump. Trump s'est attribué la paternité, j'allais dire, de cette situation en disant que là, le terrorisme va amorcer sa fin. C'est préoccupant parce qu'il amorce sa fin, mais on crée un autre problème avec l'Iran.
Ça, c'est sûr. Et puis, on a vu ce qui s'est passé en Iran cette semaine, oui. Le Qatar a envahi la France, notamment avec le sport, hein, avec le Paris Saint-Germain, qui est non plus une équipe française, mais une équipe du Qatar. On a aussi les grands hôtels, les grands palaces parisiens qui ont été rachetés par le Qatar. On a le Qatar qui est archi-présent en France, notamment à Paris. Et là aussi, c'est très inquiétant parce qu'on attend la position de la France hein, et du nouveau gouvernement français, du nouveau président français dans cette situation qui est assez bouillonnante et alarmante. Et puis, juste une petite anecdote. Il y a quelque temps, dans un stade de football en Corse, à Bastia, il y avait une banderole qui disait « Le Qatar finance le PSG et le terrorisme ». Et bien sûr, le club de football de Bastia a été lourdement sanctionné pour cette banderole. On voit que finalement…
Mais c'était un secret de polichinelle qu'il finançait des groupes terroristes. Et l'Arabie Saoudite aussi. Donc, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes groupes. Et c'est là le problème.
Alors, on verra un peu l'évolution des choses, mais c'est vrai que ça sent pas très bon en ce moment dans le Moyen-Orient et bien sûr sur l'ensemble de notre planète. Allez, on va écouter une chanson marocaine que nous a choisie Nadira Belroutout. C'est un jeune artiste, Hassan El Makribi, qui interprète la chanson traduite, ça veut dire « Écoute-moi ».
Habibi, Esma. خليك متبع نهار شفتك رميت كل شي مرايا وعقلي شدت ليه الخلايا وحتى عيوبك كان شوفها مزايا وهاتشي قليل فينك عيوبا اسمع وخليك متبع وليتي عنديك تعرف البليا كان بغيك بطريقة هستيرية اسمع 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 غنقولها ولا ما تسول فراقك هو موتي الاول
Abad, la Banque africaine de développement et le Maroc viennent de conclure un nouvel accord de partenariat. Il couvre plusieurs domaines comme l'égalité des genres, l'environnement et l'accompagnement des projets. Nadira Belkhotot a rencontré la secrétaire générale adjointe de l'Abad, Yasmona Magafal.
La Banque africaine de développement, l'Abad et le Maroc, c'est un demi-siècle de partenariat. Madame Yasmine Ramafal, vous êtes directrice générale adjointe du bureau de l'Abad et à ce titre, vous venez de conclure un nouveau partenariat avec le Maroc. Quels sont les services concernés par ce partenariat ?
Mais écoutez, c'est une stratégie qui est basée sur les réalisations qui ont déjà été faites au cours des différentes périodes précédentes et notamment de la dernière, où la banque a accompagné le Maroc dans la mise en place de réformes structurantes, des réformes qui touchent des domaines aussi importants que la question de la protection sociale, l'environnement des affaires, et également des grands projets d'infrastructure dans les secteurs comme l'énergie, l'eau, le transport et d'autres questions transversales, notamment la question du développement durable et de l'environnement et bien sûr la promotion de l'égalité entre les genres.
Le Maroc est un des importants partenaires de l'Abad, 35 projets de coopération en cours et avec une enveloppe de 2,5 millions de dollars. Sur quoi vous allez focaliser ?
Non seulement, évidemment, Sa Majesté a prononcé ce discours il est engagé directement dans ce processus. Je crois que peu de chefs d'État africains ont visité autant d'autres pays dans les, 24 derniers mois ou plus. Et également de nombreux accords de coopération, de partenariat, à la fois au niveau du public, au niveau du privé, ont été noués dans les différents pays. Et donc, bien entendu, il s'agit non seulement d'un discours, mais d'actions concrètes qui se voient tous les jours. L'économie, lorsque vous regardez par exemple la présence et le partenariat qu'il y a entre le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Maroc le Sénégal, mais d'autres pays, le Gabon et d'autres engagements dans des pays qui paraissent moins proches culturellement ou même géographiquement, comme l'Éthiopie et d'autres, et jusqu'à la Zambie même. Je crois que ça illustre tout à fait cet engagement que le Maroc a pris.
Voilà, nous étions au Maroc, qui est de plus en plus en Afrique. Hein. On voit que le fait d'être retourné après quelques décennies d'absence dans l'Union africaine, maintenant, on peut voir que le Maroc entend jouer un rôle important dans cette Union africaine, Imane.
Oui, mais il se trouve que pour l'Abad, et Nadira le dit elle-même, apparemment, les relations ne s'étaient jamais rompues, puisque un autre collègue marocain nous parle de 50 ans de collaboration. Donc, peut-être qu'il s'agit de passer à un niveau supérieur, mais ce n'était pas une brouille de 50 ans, bien au contraire.
On se brouille jamais avec les financiers, ma chère Imane.
Avec les financiers, jamais. C'est pas conseillé.
Allez, on va parler de l'Espagne avant de rendre un hommage à un grand écrivain qui a disparu. On va écouter une chanson que tu nous présentes, Imane.
Oui, alors il s'agit du groupe Jarabe de Palo qui a fêté ses 30 ans en sortant un nouveau CD avec, bien sûr, ses grands tubes historiques, La Flaca, Depende et autres, mais aussi du nouveau comme la chanson que nous vous proposons, Somos, nous sommes.
Vous écoutez Cantara, le magazine de la Méditerranée.
Somos lo que somos.
Mira hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. Todo lo que le dio, digo paz, verdad. justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad.
Mira,
somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos, somos raza, cultura, humanidad.
Somos lo que somos.
Animales racionales con carnet de identidad, seres humanos indiferentes, víctimas supervivientes de la propia raza humana.
Yo, somos lo que somos, no lo que queremos, individuos vigilados con derechos controlados.
Somos
lo que somos.
Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos.
Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos, somos homos, somos rotos, somos falsos, somos bobos.
Somos lo que somos.
Calma, tú tienes la palabra, la puerta de la vía. Reside la esperanza, reside la energía. Que brota de tu alma, tu mente positiva. No tengas miedo, avanza, libérate y respira.
Jarabe de Palo, que nous a choisi, que tu nous as choisi, Iman. Et maintenant, on tenait à Cantara à rendre un hommage à un grand écrivain espagnol.
Oui, un grand écrivain espagnol qui vient de disparaître, Juan Goytisolo, le poète canarien Juan Cruz, disait de lui un jour qu'il était un dissident de lui-même. Et avec la mort de Juan Goytisolo, le 4 juin à Marrakech, en fait, c'est presque la fin de la génération des enfants de la guerre, celle qui a surgi sur la scène littéraire dans les années 50, avec des gens comme Ana María Matute, José Hierro, Francisco Umbral et d'autres encore. Mort d'un rebelle, mais aussi la mort d'un visionnaire convaincu de l'inexorable métissage des cultures et des civilisations.
On écoute ton hommage, Iman.
Enfant de la guerre, il appartient à cette génération d'écrivains espagnols qui surgit sur la scène littéraire dans les années 50. Né en janvier 1931 à Barcelone, Juan Goytisolo, d'une famille basco-cubaine d'Indianos, ces Espagnols partis faire fortune dans le Nouveau Monde, s'est donné pour patrie l'écriture.
Yo podría decir que la única literatura que me interesa es la indecible, es poder decir lo indecible.
Je peux dire que la seule littérature qui m'intéresse est celle indicible, c'est pouvoir dire l'indicible. Juan est frère de deux autres écrivains au moins aussi célèbres, José Agustín Goytisolo et Luis Goytisolo. Éduqué dans les collèges jésuites, Juan mettra le cap sur Paris dès qu'il le pourra, pour plusieurs raisons. Pour des raisons directement ou indirectement politiques, c'était avant tout mon désaccord total avec le régime qui existait alors et sur le plan littéraire, mon désaccord avec la censure.
Y en l'aspecto literario, mi desacuerdo con la censura.
Yo prefiero personalmente equivocarme por mi cuenta que no tener razón por consigna.
Je préfère me tromper par moi-même plutôt que d'avoir raison sur ordre. À Paris, si Juan a ses entrées à Gallimard, il y rencontre celle qui deviendra sa compagne, Monique Lange. Elle lui présentera Jean Genet, celui qui en ce début de juin 2017, Goytisolo est allé rejoindre pour toujours dans le cimetière civil de l'Arache. Genet, enfant pauvre, homosexuel, repris de justice, Juan, l'élève des jésuites, le fils de bonne famille, découvre alors que le sceau d'immoralité apposé par les braves gens a sa propre moralité. Juan Goytisolo très vite cède à l'appel du Sud. D'abord Almeria, terre aride et pauvre, pauvre comme Job. En cette fin des années 60, début 70, ses escapades donneront Campos de Níjar, qui donnera à son tour un documentaire où les gens de Níjar prennent la parole, comme ici l'un d'eux qui s'étonne que quelqu'un de Barcelone puisse aller à Almeria seulement pour le plaisir.
Ahora venía por gusto, digo yo. Sí, tenía 10 días libres y me he venido para acá. ¿Qué idea venirse de Barcelona a Almería?
¡Vamos!
Con lo gusto que es en Cataluña. Hombre, ¿cómo está usted de venirse a Almería? ¿Está usted loco? ¿Está usted chalado?
Vous n'êtes pas venu par plaisir. Oui, j'ai 10 jours de libre et je suis venu par ici. Quelle idée! Venir de Barcelone à Almeria, alors qu'on est si bien en Catalogne. Comment cela vous a pris de venir à Almeria? Vous êtes fou? Vous êtes zinzin? En fait, l'appel du sud cache un appel du désert.
Je l'ai rencontré pour la première fois en la zone de Níjar, en la province d'Almeria, et luego l'ai rencontré en Argelia et en Maroc.
Je l'ai trouvé pour la première fois à Níjar, dans la province d'Almeria, et ensuite en Algérie et au Maroc. Le 4 juin 2017, Juan Goytisolo est décédé à son domicile, à Marrakech, où il s'était installé définitivement. Ici, personne ne sait qui je suis, à quoi je me consacre, ni ce que je fais. Et au lieu d'être un personnage comme j'y serais obligé si je vivais à Madrid ou à Barcelone, je peux vivre tranquillement et tenter d'être ce que j'ai toujours voulu être. Non un personnage, mais une personne.
Non un personnage, sinon une personne.
L'auteur de la Revendication de Don Julián de Paisajes después de la batalla était un visionnaire lucide du monde qui s'annonçait déjà. Je crois en une culture fécondée par d'autres civilisations qui ont été victimes de notre colonialisme ou de notre ethnocentrisme aberrant et qui à présent se venge par la base en nous contaminant avec de nouvelles coutumes, de nouvelles manières de voir le monde, de nouvelles conceptions.
Nuevas formas de ver el mundo y nuevas concepciones.
Un hommage à Juan Goytisolo, rendu par Iman, par toute l'Espagne aussi. Et c'est vrai que ce sont des personnages symboliques de l'histoire de ce XXe siècle, on peut dire de l'histoire contemporaine de l'Espagne, qui sont nés aussi, je dirais, de la tourmente, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la mère de Goytisolo est morte hein, sous les bombardements des avions franquistes en 1938. Oui. Et lui avait choisi plus l'exil, mais il avait son pays chevillé au corps.
Oui, il a choisi l'exil comme refuge en fait, comme refuge pas parce qu'il était menacé physiquement ni rien, mais parce qu'il avait besoin d'autres espaces. Et il a fini en Afrique du Nord parce que il disait que c'était là où il voyait la nécessité d'un pont entre les deux. Il ne pouvait pas comprendre la culture espagnole sans la culture de l'autre côté de la Méditerranée. Année. En fait, lui, c'est Cantara tout craché.
Complètement, puisque j'étais en train de penser à ça. Il faut dire aussi qu'au départ, il a été militant communiste.
Il a été militant communiste comme beaucoup de sa génération, aussi bien en Espagne qu'ailleurs. Ce sont des gens qui, petit à petit, ont pris leur distance vis-à-vis peut-être pas du communisme comme idée de transformation, mais du communisme tel qu'incarné par les partis tels qu'ils ont existé dans les années 60-70.
On peut dire aussi, Man, qu'il a été influencé par la littérature française, comme André Gide et d'autres.
Absolument. Il a été influencé par Genet, bien sûr. Il a même demandé, là, il a été enterré au cimetière civil de La Rache parce qu'il voulait être à côté de Genet, mais il a bien connu Simone de Beauvoir, Sartre, il a été influencé par Gide, c'est qu'il avait une culture française à la base. Il a été élève des jésuites à une époque où le français était la première langue étrangère en Espagne. Pour nos amis francophones, ce serait bien de lire Paisajes después de la Bataille, paysage après la bataille. Ça traite de la France, justement.
Très bien. Donc, l'invitation est lancée. Allez, une chanson en corse avant de parler justement d'un peintre ou d'une peintre. Plus. Bon, je ne sais pas si d'une peintresse, c'est pas très joli, mais d'une peintre.
Non.
D'abord, on va écouter Itia Madialese qui nous chante Mare di China, la mer de Chine.
Et l'amour avait la squadra, et tout era en commun. Ma spesso venia l'altra, a sera ne mancava uno.
E la luna ti splendia sopra l'umare ghina,
di
bien dit à moi, Chouchou l'a dit, et ça rit, et cantade, et poli bien dit, si qu'a dit, mourion di l'indomane.
Et la luna, qui splendia, sopra l'uma regina,
e va diede in liga fè, quando sparia lo sole, in de novi rubie c'è, venia car cui vuole.
E la luna ti splendia, sopra l'uma regina,
da ricordia notte nuella, embriachine quasi amore, e quelle onde a brucia bella, e quelle onde a brucia core.
E la luna ti splendia, sopra l'uma regina,
e sciamo a giorno diaro, imbarazzamati di vapori, tutto ci varia daru, e cambiavano i colori.
Come palle infiarrate, ma l'usore ci braiava come palle infiarrate.
Nous étions en Corse, nous y restons. Catherine Timothée est une peintre corse qui vit en Afrique du Sud, au Cap, à Cape Town. Et pour la première fois, elle expose en Europe et elle a choisi son île natale pour cette première. Elle exposera du 12 au 23 juillet au Lazaret à Ajaccio. Ses différentes œuvres sont inspirées des couleurs de l'Afrique et de ce pays que l'on peut qualifier d'arc-en-ciel. Elle peint aussi des grands formats. Et donc, dans l'interview qui suit, vous allez entendre, elle va nous parler de ses origines corses, elle y tient beaucoup, mais aussi de son parcours artistique et multilingue. On écoute Catherine Timothée.
J'ai étudié l'art à Florence en italien et à New York, donc en anglais. Et tout mon marketing s'est fait en anglais et non pas en français. Mais exceptionnellement maintenant, puisque je prévois une exposition en Corse, j'ai fait traduire tous les textes en français.
Voilà. Alors justement, la porte d'entrée, je dirais, de l'Europe, entre guillemets, c'est la Corse pour cette première exposition en Europe.
Oui, absolument. Et bien que je travaille quand même en Afrique du Sud avec Croche Beaubois, qui est une société française, très bien implantée en Afrique du Sud et à l'île Maurice, et je travaille avec les trois grands showrooms qui sont implantés là-bas. C'est moi qui m'occupe de faire leur vitrine de Noël, avec un design absolument extraordinaire. Cette année, ça va être encore innovant. L'année dernière, je m'étais un petit peu inspirée de Yaoi Kusama, qui est une actrice japonaise qui a 88 ans, absolument extraordinaire, une des artistes contemporaines les plus cotées au monde.
Alors, parlez-nous de votre œuvre et surtout de... Quand on dit peintre abstrait, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Vous, on voit qu'il y a des couleurs, on voit que c'est flamboyant, on voit que c'est éclatant de couleurs. C'est aussi ça votre choix ?
Oui, absolument. Mais d'abord, quand j'ai commencé à peindre, j'ai appris donc la peinture à Florence. Donc j'étais absolument inspirée par l'art de la Renaissance et les couleurs extraordinaires qui étaient utilisées à l'époque. Et petit à petit, je me suis détachée du figuratif, notamment quand j'ai étudié aux États-Unis et que j'étais inspirée par les héros de l'art abstrait comme Jackson Pollock, Mark Roscoe, William de Kooning, et j'en passe. En ce moment, mon préféré, c'est Gerhard Richter, qui est un artiste allemand. Et en fait, si on se base sur la philosophie de Kant, l'abstrait est absolument inévitable de la représentation. Voilà. Et en fait, de plus en plus maintenant, avec le digital, ce sont les formes et les couleurs qui prennent le pas sur tout ce qui est représentatif, puisque nous le savons avec les médias, tout ce qui est figuratif et aussi donne une distorsion de la réalité. Alors que l'abstrait, c'est la représentation de la réalité.
Vous peignez sur quel support ?
Je peins essentiellement sur du canevas. De la toile, voilà. Mais de la toile de très grande dimension. Et quand les dimensions sont supérieures à 2 mètres, à ce moment-là, je mets la toile par terre et je commence par terre, voilà.
Alors justement, votre prédilection, ce sont les grands formats.
Oui, parce que pour moi, c'est plus facile de m'exprimer sur des toiles de grand format, parce que les héros de l'art contemporain, c'était d'abord aussi des grands formats, parce que ça s'appelle, comment dire, ce sont des grands murals. Regardez maintenant les graffitis, qui est une manière de s'exprimer dans la rue, c'est sur des murs qui sont immenses. Quand on rentre dans une pièce, quand il y a un très très grand tableau, c'est ce qui vous attire le plus. On appelle ça power wall.
Oui,
n'est-ce pas?
Alors maintenant, on va revenir un peu côté sentimental. C'est un événement pour vous aussi, je dirais, d'ordre personnel, d'exposer en Corse?
Oui, absolument. D'abord parce que je suis née dans un petit hameau de Corse. Et que, oui, c'est le petit hameau de Bonicard, dans la Castaniche. D'ailleurs, il n'est même pas sur la carte, tellement il est petit. Et donc, j'y suis très attachée, puisque ce sont mes racines, et j'y reviens régulièrement, plusieurs fois par an. Donc, pour moi, c'est très spécial de faire cette exposition à Ajaccio.
Votre source d'inspiration, lorsque vous êtes en création, vous la puisez où?
Eh bien, on dit que l'art abstrait, c'est la réflexion de l'expérience de l'artiste. Et c'est exactement ça. Moi, d'abord, je n'utilise que des couleurs très pures, de très très belles couleurs. Et à partir de ces couleurs, eh bien, il y a des formes, ça dépend de ce que je ressens à ce moment-là. Mais c'est toujours très gai. C'est très positif comme peinture. En fait, cette peinture, elle a pour but de créer une émotion, mais surtout une émotion heureuse.
Et lorsque voilà. Vous travaillez là, en pleine création, vous êtes complètement immergé dans vos pensées et devant votre toile. Au contraire, vous êtes une éponge et vous regardez tout ce qui se passe autour de vous.
Bon, d'abord, je travaille dans un décor absolument extraordinaire, parce que je travaille dans un grand appartement qui a une vue sur l'océan. Et donc c'est déjà l'espace, un très grand espace. Il y a du soleil, donc beaucoup de luminosité. Et je me sens bien, donc c'est une question de bien-être. Et effectivement, je commence à peindre le matin très tôt et je peux peindre sans interruption pendant 10 heures, 11 heures, 12 heures. En fait, je dois m'arrêter pour manger, mais sans ça, j'oublie tout. On oublie tout quand on peint.
Voilà une rencontre avec Catherine Timothée, qu'on appelle Ketty, et qui sera donc en Europe pour la première fois, avec des grands formats, avec des couleurs flamboyantes. Alors, il n'y a pas de photo à la radio, mais on en mettra bien sûr sur le site de Kantara Image.
Et justement, quand tu parlais de couleurs éblouissantes et tout ça, moi je pensais que c'était l'influence sud-africaine. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être dû à sa formation première à Florence, où elle était très intéressée par la peinture de la Renaissance, c'est ce qu'elle dit. C'est étonnant de voir quelqu'un, maintenant, à notre époque, faire du grand format, parce qu'on a plutôt tendance maintenant à essayer d'avoir des formats qui peuvent voyager plus facilement. Ça a dû être toute une expédition, ramener tout ça en Corse.
Alors, je vous explique à tous le périple. Donc, les toiles ont été mises dans des caisses en bois. Donc, elles sont très grandes. Il y en a qui font plus de 3 mètres, etc. Elles prennent l'avion de Cape Town jusqu'à Marseille. Ensuite, de Marseille, elles rejoignent le port. Et du port, elles partent en bateau pour arriver en Corse. Donc, c'est vrai, c'est un long périple. Eh bien, le même périple qu'a fait notre amie Catherine Timothée, donc après son départ de Corse pour l'Afrique du Sud. Donc, voilà, le rendez-vous est pris. On rappelle les dates, du 12 au 23 juillet au Lazaret à Ajaccio.
C'est une odyssée qui finit bien.
Absolument. Voilà, la boucle est presque bouclée. Allez, maintenant, on va parler de chant lyrique, Iman.
Oui, alors pour parler de chant lyrique, on va à Tunis. Le chant lyrique occupe une place de plus en plus importante dans le paysage artistique tunisien, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Maïed Assili nous fait découvrir cette semaine une de ses nouvelles voix montantes, Yousra Zekri.
Fantasia, io vedo il mondo giusto. Nella Fantasia, ce célèbre morceau du compositeur Ennio Morricone, repris par plusieurs grands chanteurs d'opéra, est interprété ici par la jeune soprano tunisienne Yousra Zekri.
L'Institut supérieur de musique de Tunis, quand j'ai écouté pour la première fois mon prof de chant, elle chante, qui s'appelle Khilsina Radjeva, c'est une soprano bulgare. C'était un coup de foudre de chant lyrique et là j'ai décidé, et je me suis sentie que c'est ça vraiment ce que je veux faire.
Diplômée en musicologie et en chant lyrique en 2011, Yousra Zekri ne cesse de confirmer son talent à travers sa participation à plusieurs festivals tunisiens et internationaux. Elle est également lauréate de plusieurs concours et prix à l'échelle mondiale.
J'admire la scène, j'admire même l'odeur de la scène, les rideaux rouges, j'admire le public, la lumière, j'adore tout. Il n'y avait pas vraiment de chant lyrique, il n'y a pas la culture de chant lyrique. D'ailleurs, le jour où j'ai décidé de faire du chant lyrique, la première chose, c'était ma famille, ils étaient complètement étonnés. On n'arrête pas de me dire, mais c'est du n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas enfin, aller très loin, il n'y a pas de public de chant lyrique. J'ai dit, bah, voilà, je m'en fiche, je veux faire ça, pour mon propre plaisir, parce que j'aime faire ça. Et voilà, petit à petit, ça commence à construire le public. Le public tunisien, il a l'habitude d'écouter pas seulement l'arabe, il écoute le jazz, rock, metal, vraiment presque tout, blues, tous les genres. Alors moi, j'ai confiance en ce public parce qu'il est vraiment très bien cultivé et il est très ouvert.
La magie de l'opéra opère aujourd'hui auprès des Tunisiens qui, adeptes ou pas, sont sous le charme de ce style musical. Yousra Zekri en est ravie et propose ce projet en dialecte tunisien, Trabbledi.
Aujourd'hui, on trouve le chant lyrique, l'opéra, en espagnol, en italien, en français, partout au monde, en allemand, mais pas en arabe, plutôt pas en tunisien. Il y a même en Syrie, en Liban, partout, mais pas en tunisien. Et mon but, c'est de faire le chant lyrique en tunisien. Et, du coup, on vient d'enregistrer ça. Je me suis trouvée soutenir par plusieurs personnes, mais la plus importante personne, c'était le compositeur classique tunisien, Jelal Aïd. On a travaillé ensemble et on est en train d'enregistrer un disque. Mm-hmm. Voilà, c'est l'opéra en arabe, en tunisien.
Yousra Zekri, un talent qui promet.
Thank you.
الشجار لطيار ولزهار تحكي لك الحجار قديش من أسرار ونشهد لك يا تونس يا تونس
Eh bien voilà, la première chanteuse lyrique qui va chanter en tunisien. Ça, je crois que c'est un événement qu'il fallait annoncer, Iman.
Oui, absolument, parce que le chant lyrique n'est pas vraiment un genre local, ni en Tunisie, ni en Algérie, ni au Maroc. Et depuis quelques années, il y a des tentatives. Donc, je suis super contente, pour parler comme les jeunes, de voir qu'une jeune tunisienne se lance dans cela, parce que jusqu'à présent, c'était surtout des garçons, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, en arabe dialectal, on peut d'ailleurs écouter dans le reportage un bon morceau qui est reproduit. C'est chapeau, c'est bravo Yousra et merci beaucoup à Mayada de nous l'avoir fait connaître.
Voilà, et quelle voix, et quelle voix. Allez maintenant, comme chaque semaine, notre agenda culturel. Iman, allez, on commence par l'Espagne.
Alors, il sera question de photographie cette semaine. D'abord au musée d'art contemporain Reina Sofía, qui pour les 80 ans du tableau de Pablo Picasso Guernica, continue d'explorer l'œuvre du maître à travers une nouvelle exposition, Pitié et terreur dans l'œuvre de Picasso. Et l'autre exposition, elle est au Musée national d'anthropologie qui nous invite jusqu'au 25 août à découvrir 40 ans de photographie archéologique espagnole à travers l'œuvre d'un photographe passionné, le photographe José Latova, qui donne à voir les sites les plus importants d'Espagne.
Après de longues années d'attente, le palais de Aïcha Fermi, le centre des arts à Samalek, rouvre ses portes tout en beauté pour nous faire découvrir un lieu remarquable, une exposition de peinture, de sculpture qui se veut à la hauteur des lieux. Dans un emplacement féerique sur les bords du Nil, de l'île de Zamalek, se situe le palais Aïcha Fermi, transformé depuis 1978 en centre des arts, un autre vestige de la ville du Caire qui porte en son sein son histoire et ses trésors cachés, comme autant de lieux de beauté où il est bon se promener. Le site respire l'histoire de la vie des hommes et des femmes qui ont vécu, et également un lieu de beauté où l'on peut visionner des peintures et des sculptures d'artistes qui nous enchantent.
Du 27 juin au 1er juillet, Jazz à Ajaccio, Jazz in Ajaccio, avec pour cette édition Diane Reeves, China Moses, Madeleine Payot, les groupes Incognito ou Woman to Woman. Le festival aura pour cadre le Lazaret à Ajaccio. Diane Reeves, que l'on écoute d'ailleurs avant de se quitter.
It ain't too late. No, it ain't too late to change your life. 'Cause every day's a miracle, a chance, a chance, oh, a chance to make it right. Complain constantly about your life, your misery. On sunny days, you want rain, so you can moan and stay the same. Always saying what you can't do. For a fact that.
C'était quelques mesures de la voix de Diane Reeves. Voilà, avant de se quitter, soulignons que Cantara est une coproduction Radio Le Caire, Radio L'Estero d'Espagne, France Bleu RCFM, chaîne Inter Rabat, Alger chaîne 3 et Radio Tunis chaîne internationale. N'oubliez pas de jeter un œil à notre page Facebook pour retrouver nos reportages, pour écouter ou réécouter votre Cantara. Et puis on y mettra, bien entendu, quelques toiles de notre amie Catherine Timothée. Mais avant de se quitter, il faut souligner qu'ici, à la technique, à Ajaccio, il y avait Martin Pasquale.
Et à Madrid, Pedro Belastegui. Au revoir tous les cantariens.
Au revoir, à la semaine prochaine.